Bruno, Yves, je vous propose qu'on évoque à présent d'autres discussions qui sont tout aussi tendues sur les prix dans les rayons des supermarchés à moins de 48 heures de la fin des négociations commerciales. Ça se passe visiblement très mal entre la grande distribution et les industriels. Alors est-ce que ce sont nous? Est-ce que ce sont les consommateurs? Est-ce que c'est nous, finalement, qui allons en payer le prix? On va en parler dans un instant, mais d'abord, écoutez la porte-parole du gouvernement.
Je vois une tension extrême. Je vois aussi beaucoup de violence dans ces négociations. Le gouvernement va demander à la DGCCRF d'intervenir. Il faudra
c'est la répression des fraudes.
La répression des fraudes qui est en charge justement de l'application de la loi dans ces relations commerciales.
Vous allez lui demander de regarder comment se passent les négociations.
Bien évidemment, il y a un médiateur des relations commerciales qui doit regarder ce qui se passe dossier par dossier. Mais il faut faire des contrôles et il faut sanctionner. Il y a un moment, il faut mettre des sanctions quand la loi n'est pas appliquée.
Voilà, Nicolas Chaban nous a rejoint, bonsoir. Vous êtes le fondateur de C'est qui le patron, marque qui s'est engagée à rémunérer au juste prix les producteurs. Vous nous raconterez dans un instant comment vous regardez, vous, de loin, du coup, ces négociations entre la grande distribution et les industriels. Mais d'abord, Yves, c'est vrai que les négociations, c'est toujours tendu, on l'entend chaque année, mais là, ça se passe particulièrement mal. Et quand on entend Sophie Prima parler de violence, elle se dit inquiète. Est-ce qu'on est dans une situation inédite?
On est dans une situation qui est fréquente, hein, quand même. Tous les ans, quand il y a des négociations sur les prix, ça se termine toujours très difficilement. Et là, ce qu'il y a, c'est que l'État, il va être obligé d'intervenir. Et l'intervention de l'État, ça veut dire qu'il va être obligé de lancer, justement, la direction de la concurrence pour faire en sorte que la raison revienne. Le problème, c'est que les négociations avec les producteurs se passent, sont très mal passées aussi. C'est eux qui font les frais de l'opération. On s'aperçoit que la loi Egalim qui a été imaginée il y a quelques années, là c'est la quatrième, je crois, qu'on est en train de mettre au point.
C'est le projet de loi, ouais, c'est ça.
Elle n'a aucune conséquence, aucun effet, et que les dindons de la farce, ce sont les producteurs. Et que les cocus, si vous me permettez, ce sont les consommateurs.
Et on verra dans un instant, si nous, on va en payer le prix de ces négociations extrêmement compliquées.
Ce sont les consommateurs, parce que justement, c'est eux qui subissent l'augmentation des prix et les marges énormes que se font les distributeurs.
Et justement, c'est toute la question. Si ces négociations sont tendues, est-ce que les prix vont augmenter pour nous dans les rayons, en tout cas, vont pas baisser comme on aurait pu l'imaginer? Est-ce qu'il y a des marques qui vont disparaître? On posera la question dans un instant à Pascal Hébel, qui est économiste, expert de la consommation et directrice associée chez CWise. D'abord, Nicolas Chaban, je me tourne vers vous. Juste en un mot, pour ceux qui ne vous connaissent pas bien, qui ne connaissent pas bien la marque, c'est qui le patron? Comment tient votre modèle économique?
Alors nous, on est une marque de consommateurs, une coopérative. On n'a pas de partenaire financier qui nous demande à la fin de l'année de l'argent. Il n'y a pas de distribution de dividendes. Donc, on est des consommateurs en face de produits concrets et dont on veut demander toute la transparence. Donc, ça pourrait être un petit éclairage sur l'expérience qu'on a eue depuis 8 ans. Nous, on a demandé aux industriels, ce qui donne pas forcément à la grande distribution, et à la grande distribution, d'être très clair sur, notamment, ce qui revenait aux producteurs.
Voilà, sur la question de transparence, et c'est pour ça qu'il y a tout un débat aussi sur la loi Egalim. Je crois que vous êtes favorable à une loi Egalim 4, vous nous direz dans un instant ce que vous attendez et qui marche, parce que c'est ça, c'est ce que Yves soulignait il y a un instant, c'est ce que disent là les industriels. Ils accusent la grande distribution de tirer tellement les prix vers le bas qu'en fait, ils ne peuvent pas respecter la loi Egalim, c'est ça qui est
la loi Egalim, c'est bon, qui est fait. Quatrième version, et franchement, si rien ne bouge, elle marchera encore pas, et pourtant on n'est pas pessimiste, on rêverait que ce soit le cas pour les producteurs. On refait un schéma rapide. Vous avez à droite les producteurs, on va dire, voilà, en début de chaîne, plutôt là. Et puis ensuite, vous avez les consommateurs ici, au milieu, distributeurs et industriels. Les deux parties du milieu travaillent pour l'intérêt du consommateur, puisqu'il faut qu'à un moment donné, ils viennent dans les magasins. Et puis, comme finalement, ça se passe pas très bien, on vient appuyer sur la surface molle pour récupérer des centimes. Et là, c'est le producteur qui en pâtit. Nous, consommateurs, depuis 8 ans, juste pour faire ce témoignage-là, pas pour dire qu'on est la pentecôte du système et de l'avenir du système, c'est juste pour dire que...
C'est un modèle alternatif qui existe, quoi. Voilà, c'est ça.
Et ça marche très bien. Je vais vous montrer pourquoi. Nous, on a simplement dit, OK, sur la brique de lait notamment, l'industriel, LSDH, l'étrier de Sainte-Lune de l'Hôtel, nous dit, on doit augmenter parce que l'électricité a augmenté, les salaires. On a demandé, de façon très bienveillante, d'avoir les comptes. Et je crois que Carrefour nous disait qu'ils n'avaient jamais eu ce niveau de transparence. On a pu voir précisément que l'électricité de cette grande structure était passée de 5 millions d'euros à 25 millions d'euros. Les salaires, oui, avaient augmenté. On a pu se rassurer sur le fait que les fameux 13 centimes qui nous ont été demandés avaient du sens. 13 centimes pour la laiterie. Les 15 autres centimes, là je parle depuis 2021, sont allés aux producteurs. Rassurés par le fait que notre argent n'était pas comme ça en train de s'évaporer dans des zones qu'on ne maîtrisait pas, la preuve est faite, on a fait de cette marque nouvelle, celle des consommateurs, la marque la plus vendue parmi les nouvelles marques depuis 10 ans. Le monde économique n'a pas créé une marque qui se vend plus depuis 10 ans.
Elle est plus chère en moyenne que les autres bouteilles de lait, de, alors, les autres briques de lait.
Si vous me permettez, elle est au juste prix. Ce sont les autres briques, je vous fais...
Qui sont en dessous du prix. Mais malgré un prix un peu plus élevé, vous êtes populaire auprès des consommateurs.
C'est la marque, c'est la brique de lait la plus vendue de France, hors MDD. La marque nouvelle la plus vendue depuis 10 ans. Pourquoi? C'est pas pour les podiums qu'on dit ça. C'est pour simplement montrer que quand on est sûr, nous, consommateurs, que les centimes sont traçables et qu'ils vont au bon endroit.
Et qu'ils vont bien aux producteurs, on est prêt à payer peut-être un petit peu plus.
On est à l'an 1 de ce que ça doit être la suite. C'est-à-dire qu'au bout d'un moment, il faut de la transparence à tous les niveaux.
Mais qui se sert? Parce que là, typiquement, quand vous regardez ces négociations extrêmement tendues, à qui la faute? Parce que chacun se renvoie la balle. La grande distribution dit c'est les industriels qui gonflent leurs marges de façon complètement ahurissante et complètement inexpliquée. Et les industriels disent non, c'est la grande distribution qui tire les prix vers le bas et qui nous demande des efforts qui sont considérables.
On connaît bien les deux parties, chacun a ses problèmes. Et puis après, il y a le syndrome, vous savez, du film Usual Suspect, Kaiser Soze, c'est-à-dire qu'il y a une espèce d'entité comme ça, un peu immatérielle, qui donne l'impression qu'il faut se battre, mais il n'y a plus aucun repère. Quand vous n'avez pas de transparence, vous êtes distributeur, vous vous dites, je dois baisser le prix de l'industriel, sinon je vais avoir son produit plus cher que mon concurrent. Donc là, on rentre dans une logique un peu d'angoisse et de négo par le bas. Mais comme par ailleurs, l'industriel ne présente pas de transparence, il n'y a pas vraiment moyen d'arbitrer. Et tout ça est fait pour nous, les consommateurs. On demande une chose pour l'avenir. Que on puisse s'inviter, comme on l'a fait depuis 8 ans avec nos propres produits, dans des rendez-vous où tout le monde travaille pour nous, sans qu'on n'apparaisse jamais. Et si on veut que le producteur soit soutenu, il faut qu'à côté de lui, il y a un consommateur qui rappelle que en premier lieu, ce qu'on veut, notamment dans les produits agricoles, c'est que le producteur vive. Mmh. Il disparaisse, pardon de vous le rappeler à chaque fois, 100 000 exploitations ont disparu en 10 ans, les producteurs, la moitié part à la retraite là dans 5 à 10 ans, c'est l'INSEE. Qui va nous nourrir? Il faut d'urgence que la transparence aide évidemment le producteur, mais nous aide aussi à arbitrer. Si un produit demain, dernier mot, vous avez 20 000 références en magasin, combien de produits vous pouvez nous décrire comme étant assez transparents pour que vous sachiez, en apportant votre argent vers l'un ou vers l'autre, quelles conséquences il y a derrière nos actes d'achat? Vous vous rendez compte, en 2025, on achète au jugé, à l'aveugle, en espérant que les retombées soient pas trop négatives pour les producteurs. Il faut beaucoup plus de transparence, même si la loi encadre évidemment durement la concurrence et le secret des affaires.
Mais alors justement, on verra ce qui se prépare avec vous, Bruno, dans un instant, ce projet de loi Egalim 4. Est-ce qu'on peut avancer sur ce sujet de la transparence? On va en parler dans un instant. Avant, on accueille Pascale Hébel à distance. Bonsoir, je le disais, vous êtes économiste, experte de la consommation et directrice associée chez CWise. Le PDG de l'ILEC, ce qui est une institution qui représente 115 grandes marques, dont Coca-Cola, Nestlé, L'Oréal, entre autres, dit, je le cite, on est à 10% de signatures alors que les négociations, elles se terminent là samedi. Est-ce que c'est normal? Est-ce qu'en fait tout est en train de se jouer dans le money time et on surjoue un peu la tension, le match de boxe pour essayer de tirer les prix de son côté à son avantage? Ou est-ce qu'on est vraiment dans une situation cette année très 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 particulière?
Je crois que chaque année, c'est très difficile, hein, puisqu'on a même changé les dates des négociations, parce qu'il y a des différences très fortes entre ceux qui sont derrière l'ILEC, qui sont les grandes marques, et les PME, ou les marques distributeurs, puisque les marques distributeurs ne rentrent pas du tout dans le round des négociations, puisque c'est des contrats directs. Donc c'est vrai que ça ne représente pas toute l'alimentation de ce qui est distribué dans la grande distribution, ce que représente l'ILEC. Et malgré le fait qu'ils disent que c'est 80%, c'est 80% des grandes marques. Ensuite, c'est vrai qu'il y a des concentrations qui ont été faites du côté des centrales d'achat. Ça change d'une année à l'autre. Donc, les distributeurs ont notamment fait des centrales d'achat qui sont au niveau européen. Et évidemment, là, la loi Egalim ne s'applique pas. Donc, ça joue en effet sur la répercussion pour les agriculteurs ou Il y a des rapports qui le montrent, hein, on n'a pas réussi à répercuter finalement les hausses, parce que les consommateurs ont quand même payé plus cher pendant la période d'inflation. On n'a pas répercuté ça sur les agriculteurs, parce qu'en plus de ces négociations, il y a une partie de la loi Egalim qui est un peu critiquée, qui est le seuil de vente à perte. On oblige les distributeurs à vendre 10% plus cher que ce qu'ils achètent eux-mêmes. Et là, en effet, on sait bien que ces 10%, ça ne s'est pas répercuté non plus pour les agriculteurs. Il y a des rapports qui l'ont montré, notamment à la fois des rapports de députés, mais aussi des rapports de l'État. Donc, on voit bien que ça ne fonctionne pas. Et d'une année à l'autre, une année, c'est l'industrie qui a pris au moment où il y a eu beaucoup d'inflation. L'année d'après, c'est les distributeurs. Donc, ce sont les deux acteurs qui, en effet, sont gagnants une année sur l'autre. Et les consommateurs. Après, on constate quand même qu'en France, on n'a pas une inflation beaucoup plus forte qu'au niveau européen sur l'alimentation. Il n'y a pas. Mais on a quand même un niveau de prix qui est 10% supérieur à la moyenne européenne. Donc le dysfonctionnement, il est ancien.
Donc c'est nous, en fait, vous êtes en train de dire, c'est nous qui payons, nous consommateurs, on paye le prix de cette guerre des négociations, si je vous comprends bien. Et là, cette année, elle s'annonce particulièrement tendue. Alors, quelles conséquences pour nous? Est-ce que ça signifie qu'on va avoir des prix plus élevés qu'on ne l'aurait imaginé, ou qu'il y a des marques qui vont disparaître des rayons?
Alors, il y a sans doute des marques, mais ça c'est tous les ans, hein. Il y a un distributeur qui va pas mettre certaines marques, et ensuite ça se régule au cours de l'année, parce que il y a des choses qui se renégocient ensuite. Simplement, ce qu'il faut savoir, c'est que on a une inflation qui a atteint 20% en deux ans, et que sur ce secteur de l'alimentaire, ce qui est sûr, c'est qu'on voit bien qu'on n'arrivera jamais à baisser un peu l'inflation, comme c'est le cas de l'énergie. C'est-à-dire que tout le monde a compris que l'électricité, quand ça baisse de 15%, ça baisse de 15%, parce que le prix des matières a diminué. Et là, on voit bien qu'il y a des produits de matières premières, les cours ne s'envolent plus autant qu'avant, c'est le cas du blé. Eh bien, on voit bien qu'on ne répercute pas ces baisses sur le consommateur. J'ajoute juste une autre information, c'est qu'on a une insécurité alimentaire, c'est-à-dire la proportion de gens qui n'arrivent pas à manger à leur faim, qui sont obligés de sauter des repas, elle a triplé en 10 ans. Et donc, il y a vraiment quand même une contrainte, hein, qui est forte du côté des consommateurs, et ça touche la moitié des 18-24 ans. Donc, c'est les jeunes, en plus, qui pâtissent d'une hausse des prix de l'alimentation. Donc, on comprend que les consommateurs aimeraient, en tous les cas une partie, aimeraient pouvoir avoir une baisse de prix qui serait assez logique, puisque il y a certaines matières premières où les prix ont baissé. Par contre, on sait qu'en effet, il y a des produits dont on devra se passer sans doute en tant que consommateur français, puisqu'il y aura des hausses de prix sur le cacao, sur le café, parce que les récoltes vont diminuer en raison du changement climatique et de tous les incidents qui vont continuer d'arriver.
Merci beaucoup Pascal Hébel pour ces explications, et on comprend que derrière cette guerre des négociations, Bruno, ça peut paraître technique comme ça, ce sujet, mais la réalité, c'est qu'en fait, ça nous concerne tous, que demain, on va voir les conséquences de cette guerre des prix, de cette guerre des négociations, là, dans nos rayons.
Oui, bien sûr, il reste deux jours, hein, ça a été dit. On est sur des bases assez élevées pour l'instant sur certains produits, ça peut monter jusqu'à 5, 6, 7%. À mon avis, à l'arrivée, ça se terminera plutôt à mi-chemin, donc ça aura quand même des conséquences pour les consommateurs et pour les agriculteurs. Que peut faire le gouvernement? François Bayrou, au début de l'année, a remis sur le métier une loi Egalim 4. Qu'est-ce que c'est une loi Egalim? Les premières ont été votées en 2018. Elles étaient jugées pas assez dures pour les distributeurs et pas assez favorables pour les producteurs et à l'arrivée pour les consommateurs. Donc on a à chaque fois durci l'encadrement de ces négociations pour permettre d'obtenir des prix qui soient plus proches de la réalité qu'espèrent les producteurs. Le nouveau round de négociation, je fais vite, a été interrompu par la dissolution, mais il était jugé encore pas suffisamment favorable pour les producteurs. Et là, François Bayrou a remis ça sur le métier au début de l'année, ce qui a été jugé favorable par une partie des organisations agricoles. Pas toutes, y compris les jeunes agriculteurs qui sont proches de la FNSEA, qui n'étaient pas très contents. Il semble que là, les choses à nouveau se détendent un petit peu, mais de toute façon, cette loi Egalim 4, elle ne va pas s'appliquer maintenant pour les négociations actuelles, puisque les négociations actuelles, elles se terminent.
Et puis le problème, c'est que c'est ce que disent les industriels, c'est que déjà la loi Egalim 3 n'est pas appliquée, n'est pas respectée visiblement par la grande distribution. Donc est-ce que l'enjeu, c'est pas déjà de faire respecter cette loi avant de la changer?
On en a beaucoup parlé avec eux. Une petite nouveauté d'ailleurs. D'abord, un petit espoir, quand vous avez toute la transparence, les œufs de cette démarche que je recite pas ont été les premiers à baisser parce que l'alimentation animale a baissé. Nous, on avait l'information en direct et le prix, donc, pour la première fois, a baissé, ce qui prouve que la transparence peut faire monter les prix, mais aussi les faire baisser. Pour la loi Egalim, elle a été créée étudiée en 2017, sur la base de ce qu'il patron. C'est-à-dire que Audrey Bourleau, la conseillère d'Emmanuel Macron, dit on va faire, à partir de ce principe créé par les consommateurs, une loi. Ça ne marche toujours pas. Vous savez pourquoi? Parce que, on l'a encore dit là récemment, tant qu'il n'y aura pas dans ces rendez-vous les producteurs, voir les consommateurs, et on a fait une proposition là depuis 2 jours, ça ne marchera pas. Parce qu'à un moment donné, il y a toujours des contournements. Et là, pour la première fois, le président de la République est venu nous voir, là, au salon, la ministre de l'Agriculture, les conseillers. Et finalement, ils ont reposé la question suivante. OK, ça marche, votre système, à son niveau. Les consommateurs sont quand même de gros arbitres avec une influence forte sur les distributeurs et les industriels. Comment on pourrait réimaginer quelque chose? Donc, c'est le repoint de départ d'une réflexion. Mais si on reste sur les bases actuelles, hélas, on l'a dit à tout le monde, ça ne marchera pas.
Ça ne marche pas parce qu'effectivement, cette négociation, elle se fait à deux, industriels et grande distribution. Mais c'est vrai que la question qui est soulevée est importante. Pourquoi on n'a pas les agriculteurs qui sont à table de négociation? Pourquoi on n'a pas les consommateurs?
Ça, c'est depuis le début que c'est évidemment. Ça, c'est un des gros problèmes. Et d'ailleurs, les producteurs ne cessent. Alors, ils espèrent que dans la loi Egalim 4, peut-être qu'il y aura une petite amélioration. Mais il y a un point qu'on n'a pas du tout évoqué, c'est le fait que les centrales d'achat maintenant, elles s'installent à l'étranger. Mm-hmm. À partir du moment où elles s'installent à l'étranger, aux Pays-Bas.
Oui, du coup, vous n'avez pas respecté la loi Egalim.
La loi Egalim n'existe plus. Donc, c'est un contournement de la loi aujourd'hui qui a lieu. Et ça, c'est très dommageable. Et c'est là, il faudrait qu'Egalim 4 aussi arrive à faire en sorte
à bloquer ces centrales d'achat.
Évidemment.